On est de retour sur les ondes de Radio Électron Libre pour ce direct avec Pascal. Il faut que je remette la main sur mes notes. Pascal,
Borel.
Pascal Borel, excuse-moi. Merci d'être de nouveau avec nous pour ce deuxième épisode du Grand Vol Invisible en direct depuis Annecy, depuis la brasserie Les Trois Brasseurs. Voilà, c'est au centre de Annecy, station commerciale. Et il y a une brasserie à l'intérieur qui s'appelle Trois Brasseurs.
Exact.
Et bon appétit à ceux qui autour de nous mangent. Alors vous allez avoir un petit son un peu décalé parce que ben voilà, on essaye de faire avec les moyens du bord, mais ça devrait bien se passer normalement. Le temps que je récupère mes feuilles, Pascal, je te laisse la parole.
Merci Vincent, merci de m'accueillir une fois plus sur Radio Électron Libre. En effet, on est savoisiens, si je peux dire, qui sont à la recherche de la réécriture d'une constitution qui a déjà été déposée d'ailleurs à Bruxelles. Et je les salue tous. Nous sommes dans les nouvelles galeries d'Annecy pour cette émission en direct qui est diffusée non seulement sur Radio Électron Libre, mais que vous retrouvez, la caméra est en face de moi, sur YouTube, Telegram, X. Voilà, on y est. Et aujourd'hui, je laisse Vincent introduire les sujets dont on va parler. Vincent, à toi, s'il te plaît.
Alors, aujourd'hui, on va essayer. Dans le premier épisode, on avait parlé de cette histoire de, on va dire, cabale, de cartel invisible qui gère notre argent, en parlant de la Fed, de la Banque d'Angleterre, de la BSI, donc, qui est à Bâle, ou la BRI pour certains, ça dépend si vous êtes anglophone ou pas. Donc, la BRI, c'est Banque des Règlements Internationaux. Et puis aujourd'hui, ben, le thème de l'émission, ce sera Trump et les BRICS, amis ou ennemis? On va s'interroger. Question avec Pascal. C'est assez complexe. On va essayer de vulgariser au maximum la chose. C'est un travail de longue haleine d'aller chercher des mots, d'aller chercher des phrases, des exemples. Hein. Tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui est vérifié, vérifiable. Et on va explorer le rôle ambigu de Donald Trump face au système financier mondial qu'on a décrit dans l'épisode précédent. Et puis, critique-t-il vraiment ce réseau d'élites ou défend-il la domination américaine? Et les BRICS, ce groupe de pays émergents, représente-t-il une vraie alternative pour la souveraineté des peuples? Alors, je suis Vincent Vermeil et je suis ravi d'accueillir donc de nouveau Pascal, notre invité pour ce direct-là. Ce sera l'épisode numéro 2 du Grand Vol Invisible. Et je tiens à remercier aussi, au nom de Radio Électron Libre, nos amis savoisiens qui nous accueillent aujourd'hui dans une région qui est magnifique. Pascal, qu'est-ce que tu penses pouvoir vulgariser Trump et les BRICS?
Alors, mon cher Vincent, j'ai regardé les commentaires de la semaine passée et j'ai beaucoup de gens qui me demandent de rester au cœur du sujet, car il paraît que je m'éloigne sur les branches plutôt que de rester collé au tronc. Donc, je vais rester vraiment très, très fondamental aujourd'hui. Et avant même de parler des BRICS, j'aimerais parler de Trump un instant. Et j'aimerais parler de la puissance du dollar, la façon dont elle s'est construite et pourquoi, à mon sens, les BRICS ont assez peu de chances dans les mois, dans les années qui viennent, de pouvoir être une véritable concurrence au dollar. Mais avant cela, il faut se souvenir que notre ami Donald John Trump est un homme qui a fait de l'immobilier. Il n'avait aucune vocation politique pendant des années et des années. Et aujourd'hui, que ce soit dans la politique ou ailleurs, il répète les exercices qu'il a appris à jouer. Donc, il a écrit un livre qui s'appelle « The Art of the Deal ». Donc, notre ami Trump, c'est un dealer, ce qu'on appelle un « wheeler and dealer ». C'est pas du tout dans un sens péjoratif que je le dis. Non, c'est parce qu'il répète ce qu'il sait faire. Et aujourd'hui, son objectif, c'est véritablement de donner au peuple américain, à la middle class, à la classe moyenne, l'occasion de recommencer à être productive sans se faire voler de façon systématique par le néolibéralisme, par les démocraties représentatives dont on s'est doté au fil des siècles à partir de la, on va dire, Révolution française un peu plus tôt pour les Américains. Donc, notre ami Trump, il peut pas passer d'un paradigme à l'autre instantanément. L'inertie du système dans lequel il évolue lui permet de faire des petits pas qui l'approchent de ce qu'il souhaite faire. Et entre autres, c'est bien entendu, comme je le dis, rendre sa souveraineté au peuple pour en faire un actif, pour faire du peuple un centre de profit plutôt qu'un centre de coût. Mais simplement, il ne peut pas le faire du jour au lendemain. Donc, il le fait en fonction des moyens. Il a nommé un cabinet absolument extraordinaire avec son vice-président J.D. Vance, qui est d'ailleurs en totale opposition avec Emmanuel Macron aujourd'hui, avec un Marco Rubio, qui est le Secretary of State, donc ministre des Affaires étrangères. Et ces gens-là, pour forcer les États européens à revenir à ce qui est dans l'intérêt de leur propre peuple, sont en train, donc J.D. Vance, le vice-président américain, avec l'appui de Donald John Trump, ils sont en train de mettre des taxes et d'interdictions, ils sont en train de mettre une interdiction de séjour à tous les politiques européens et autres qui s'opposent à la liberté d'expression. Ça veut dire que les politiciens n'auront plus le droit de venir et en plus, ils sont à deux doigts de mettre 100% de taxes sur la plupart des produits, entre autres pharmaceutiques, pour tous les gouvernements qui seront complices de la diminution de la liberté d'expression. Donc, ce que je dis simplement, c'est que Trump, par son action, oblige les gouvernements européens de recommencer à être au service du seul souverain, le peuple. Et il faut faire ces liens. Si vous êtes capable de les faire, ben, vous allez comprendre ce qui se passe en ce moment. Parce qu'encore une fois, le seul but de Donald Trump, ce sera à terme d'éliminer la Banque centrale et tout ce qu'il fait va dans cette direction pour empêcher d'utiliser l'outil monétaire, à savoir l'argent, qui est un service donné par le gouvernement à destination du peuple et de tous les acteurs économiques. Et il veut redonner cet outil sans contrainte financière, sans contrainte politique, sans que l'outil, ce service que le gouvernement offre à tous les acteurs économiques de la nation, ne soit utilisé à des fins de pouvoir politique. Et donc, ce que je dis, c'est qu'il fait ce qu'il sait faire. Il fait des deals. Il le fait avec la Russie, il le fait avec l'Europe, il le fait avec son propre peuple. Et son unique ambition, c'est de faire croître l'économie. Et il connaît les clés qui lui permettent de faire quelque chose comme ça. Donc, voilà, si j'ai commencé à répondre, voilà, j'ai parlé de Trump. On va parler des BRICS dans un instant. Vincent, je te passe la parole.
Alors oui, Pascal, parce que là, tu as donné beaucoup d'explications. Moi, j'aimerais juste te demander si tu arrives, alors je sais que ce n'est pas facile, mais est-ce que tu arrives à éviter les anglicismes?
Ah oui, bien sûr.
Parce que ça, c'est quelque chose, les gens, des fois, ils ne comprennent pas.
Oui, je comprends, je comprends.
Alors, si tes explications sont fantastiques, tout ce que tu dis est vrai, vérifié, vérifiable. Mais moi, je m'interroge aussi sur le fait que Donald Trump, au départ, il a critiqué la Fed pour des taux trop hauts. Et puis, il y a quand même des choses qui sont bizarres, parce qu'il critique, et là, il est en train d'essayer de virer un des gouverneurs de la Fed.
Parce oui, compris, Jérôme Powell.
Et puis, cette dame, elle va partir. Elle va rester son petit cul vissé sur une chaise. Et c'est pas très juste. Hein. Bon, c'est pas la seule. Hein. Hier ou avant-hier, ils ont viré la directrice du CDC, l'équivalent du département pour la Suisse, c'est le Swiss Medic. Elle n'a pas voulu partir, donc on lui a signifié son licenciement avec effet immédiat. Voilà. Les autres, beaucoup d'autres, notamment dans la CDC, beaucoup d'autres médecins ont démissionné suite à cela. Mais si on revient à Trump et aux BRICS, mais ou à la Fed, si vous voulez, donc Trump ne propose pas, il critique la Fed, mais il ne propose pas de la démanteler. Alors moi, j'ai l'impression que c'est plus du populisme économique pour favoriser la croissance américaine, comme il l'a fait à un moment donné en utilisant la Fed quand il y a eu le début de la crise Covid. Hein, il y a une impression de billet fabuleux, mais il n'a pas l'air de toucher aux racines même du système qui profite aux élites. Puisque pendant la crise Covid, hein, on en a parlé dans la précédente émission, les riches se sont plus enrichis et les pauvres plus appauvris. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Pascal. Que fait-il avec la Fed, qui est son propre outil, hein, normalement, de gestion financière aux États-Unis, notamment?
Alors, Vincent, je te remercie encore une fois pour cette question. Clairement, la Fed est l'outil, ou plutôt est devenue l'outil des politiques. Mais tu dois te rappeler d'une chose, c'est que la Banque fédérale est profondément anticonstitutionnelle et que des présidents qui ont été donc à la tête des États-Unis, je vais nommer le cinquième président des États-Unis, M. Andrew Jackson, a fait graver sur sa pierre tombale « J'ai tué la banque ». Parce qu'ils s'étaient bien rendus compte, et les hommes politiques de l'époque étaient peut-être un peu plus honnêtes, mais ils s'étaient parfaitement rendus compte que donner à un petit nombre d'individus la possibilité stratégique d'imprimer de l'argent sans qu'aucun travail ne vienne soutenir la valeur de cet argent était un déséquilibre total au niveau du système économique lui-même. Donc, bien sûr, il ne peut pas, et là on reparle de Donald John Trump, il ne peut pas aujourd'hui véritablement mettre l'ensemble de sa politique à exécution pour une raison qui est toute simple. C'est que tu l'auras remarqué, chaque fois qu'il fait passer un ordre exécutif venant de la présidence directement, eh bien ça se joue à 3, 4, 5 voix au Congrès. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. Ils ont tous mangé à la même gamelle. Et que tu sois de gauche, de droite, du centre, démocrate, républicain, que tu sois écologiste et autres, ton objectif n'est jamais de changer le système. Ton objectif est de mettre les pieds sous la table et de te gaver du repas laissé par les précédents. Et c'est de façon systématique comme ça que ça se passe. Alors que Trump, lui, il propose un vrai changement. Donc finalement, que ce soit dans le camp des démocrates ou des républicains, il n'a entre guillemets que des ennemis. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas faire passer une destruction de la Fed du jour au lendemain. C'est pour ça qu'il utilise un Elon Musk pour mettre le Department of Governance Efficiency, Department of Governance Efficiency. Je sais, désolé pour les anglicismes, mais j'y vais. Et il utilise les actifs qu'il a à disposition pour casser cette machine. Son objectif, in fine, c'est de créer un parti central, vraisemblablement à l'image de ce que fait Elon Musk, le Parti des Amériques, pour réussir à éliminer tous ces gens qui se sont gavés du même repas depuis bientôt 50 ans. Donc, voilà, il fait ce qu'il peut faire, mais la beauté du geste, c'est qu'il oblige les gouvernements européens à se mettre au diapason. Et c'est ça qui est merveilleux, parce qu'il va doter son pays d'un tel avantage économique que tous ceux qui ne suivent pas seront éliminés du match et n'auront plus voix au chapitre. Et c'est ça la beauté du geste.
Est-ce que tu as des exemples concrets de ce gavage de ces élites qui se gavent? Est-ce que tu peux donner à nos auditeurs des exemples concrets de ce gavage? Parce que c'est ça que les gens ont envie de savoir. Ils ont envie d'avoir des exemples.
Magnifique, on y va. Donc, le premier exemple que je vais prendre est un exemple typique américain. Tu dois savoir une chose, c'est que Donald Trump et Elon Musk ont restructuré le département de la santé. Pourquoi? Parce que comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, les États-Unis est, d'après le département de la santé, le pays dans lequel il y a le plus de centenaires. Et je ne parle pas de gens qui ont 110, 120, non, je te parle de gens qui ont 130, 140, 150 ans. Alors qu'on sait tous que la plus vieille personne recensée était une Madame Jeanne, je ne me souviens plus quoi, qui est morte à du style... Jacques?
Jeanne Calment.
Jeanne Calment, merci. Et qui est morte à 122 ans, ce qui était absolument extraordinaire. Eh bien, aux États-Unis,
Le gouvernement a continué à payer la sécurité sociale à des gens qui avaient 120, 130, 140, 150 ans et plus. Où allait cet argent? C'est intraçable. Moi, je vais vous dire où il allait, cet argent. Il allait dans les gros 4x4, dans les piscines, les merveilleuses maisons que les politiques ne manquent pas d'habiter. Et ils ont bien raison d'avoir fait ça de cette façon, puisque le système le leur permet. Donc voilà. Et Donald Trump a restructuré ça de cette façon. Je vais te donner un autre exemple, mais sans entrer dans les détails, parce que je suis en pleine investigation là-dessus. On a en Suisse cette votation pour l'EID, donc l'identité électronique, le 28 septembre. Et il est vraisemblable que des sociétés de droit suisse, des SA, qui sont toutes interconnectées, qui servent d'écran de fumée de façon systématique, ont reçu le mandat de l'État de gérer l'identité électronique, la EID. Et ces sociétés privées qui ont un mandat étatique font des bénéfices en direct pour des actionnaires privés sur le dos des impôts qu'ils collectent. C'est-à-dire que l'État suisse fait collecter l'impôt par une société privée qui fait des bénéfices qui se chiffrent en millions et millions. Ils redistribuent des dividendes à leurs actionnaires sur la base de l'argent du contribuable. C'est une obscénité et on doit mettre fin à ce genre de choses. Et je ne peux pas le reprocher ni aux businessmen qui sont là derrière, ni aux hommes politiques, car le cadre légal le leur permet. Ils font quelque chose qui est anticonstitutionnel, quelque chose qui est illégitime, mais qui est légal du fait du cadre légal, du fait des règles qui sont censées nous unir et qui donnent à ces gens-là la possibilité de rester dans la légalité quand ils abusent de l'argent produit par les citoyens de cette façon, en direct. Et c'est l'État qui leur donne... Donc, le seul point que je veux faire, c'est que tant qu'on n'a pas un principe de tiers regard qui donne la possibilité à tous les citoyens de suivre les flux financiers, franc par franc, comment est utilisé l'argent des impôts, où est-ce qu'il va, pourquoi il est dépensé, eh bien, nous n'aurons jamais d'honnêteté de ces gens-là, parce qu'ils ne rendent aucun compte. Et je te rappelle que l'impunité est le plus grand encouragement au crime. Donc, ça veut dire que tant qu'il y a une impunité, tant qu'on ne connaît pas les flux financiers, nous n'avons aucune chance de faire justice. Et puisque je te prononce le mot de justice, je te rappelle que c'est la même chose pour le cadre légal. Le cadre légal est un service destiné au peuple, au seul souverain, le peuple, payé par le peuple. Et donc ça veut dire que si tu veux responsabiliser les juges, tu dois donner au peuple un tiers regard sur toute décision de justice, sur tout verdict rendu par un juge. Et c'est seulement à ce prix-là que les juges cesseront d'être corrompus au service des intérêts financiers et des intérêts du pouvoir. Car ils devront rendre des comptes, non pas à un groupuscule de gens qui les immunisent, si je peux dire, mais à la terre entière, à tous les citoyens qui souhaiteront s'exposer, comprendre les verdicts, les décisions de justice. Donc, je t'ai cité le cadre de la santé, parce que c'est très important, ça nous touche tous un jour ou l'autre. Mais j'aimerais encore te citer une dernière chose, c'est l'éducation. Aux États-Unis, Donald Trump, armé de son arme, de son fer de lance, Elon Musk, a été porté l'estocade dans le département de l'éducation. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a viré des milliers de personnes qui n'avaient strictement rien à faire avec l'éducation, mais qui absorbaient 50% du budget. Et il a juste rendu transparent la façon dont le budget est utilisé. Et j'ai pas les chiffres exacts en tête, parce que je les sors comme ça, out of the blue. Je suis désolé. Mais voilà. Mais le fait est que les Américains ont économisé des milliards qui vont pouvoir être réalloués à l'éducation des jeunes. Parce que tout le monde sait que dans l'art de gouverner des hommes, une seule chose compte, c'est l'éducation des jeunes. Et quand tu veux que des gens puissent produire la meilleure version d'eux-mêmes, tu dois les éduquer correctement et ça n'est pas une affaire étatique. L'État peut payer des écoles, mais c'est une affaire d'abord parentale et ensuite qui est dévouée à des professionnels de l'éducation qui ont une vocation pour travailler de cette façon. Ils ont restructuré au niveau santé, au niveau éducation. Ils restructurent au niveau des ONG comme USAID. C'est des milliards et des milliards d'argent qui sont redonnés indirectement au peuple plutôt que d'alimenter les OG genevoises qui ne sont rien d'autre que pour 80% de ce qu'elles font, c'est du pur blanchiment. Et tant que les OG, les organismes gouvernementaux, pas les ONG, les OG genevoises, ne donnent pas une totale transparence, un tiers regard total aux citoyens, eh bien nous n'aurons aucune chance de savoir ce qu'elles font de notre argent. Et je te donnerai bientôt des exemples auxquels j'ai été confronté à Berne, directement, quand la Suisse avait par exemple alloué 2 milliards aux pays nouveaux entrants dans l'Europe. Les gars ne savaient pas où partait l'argent. Ils le donnaient à une autre OG en Yougoslavie, en ceci. C'était pas la Yougoslavie, mais c'était les nouveaux pays entrant dans la communauté européenne. Et dès que l'argent sortait du compte, il n'avait plus aucune traçabilité. Et c'est ça qui ne va pas. C'est les flux financiers. C'est le manque de traçabilité des flux financiers. Et tant qu'on n'a pas ça en main, on est mort, on n'a aucun avenir. Les citoyens seront méprisés jusqu'à leur dernier souffle.
Merci Pascal pour ces exemples. Mais si on revient à ces BRICS, à ces donc pays, hein, il y a le Brésil, il y a la Russie, il y a la Chine, si on revient à ces pays-là, est-ce que ce système des BRICS, que les BRICS remettent en place, c'est-à-dire de développer les paiements en monnaie locale, d'accord, est-ce que c'est une vraie solution? Parce que moi, je réfléchis plus loin et je me dis, mais si on arrive à assainir le marais financier qui nous noie depuis des décennies maintenant, voire des siècles, est-ce que ce ne serait pas une vraie solution pour la paix et puis surtout pour la souveraineté des peuples?
Et encore une fois, merci pour la question, un de mes sujets pas forcément favoris, mais auquel j'aime penser. Il faut bien comprendre une chose, c'est que nos amis les BRICS, ils sont tout à fait légitimes dans le fait de vouloir lutter contre le dollar, c'est une évidence. Mais soyons quand même clairs. Que ce soit le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Chine ou autre. Je ne parle pas de la Chine. Mais parlons de la Russie un instant. La Russie a une économie qui fonctionne très bien malgré son état de guerre. Ils ont 4,5% de croissance l'année passée, ce qui est fabuleux. N'oublions pas une chose, c'est les chiffres en valeur absolue. C'est, soyons quand même clairs, la Russie pèse à tout casser 10% de l'économie américaine. En fait, c'est moins de 10%. Donc comment voulez-vous, comment veux-tu que la Russie, même alliée au Brésil, à l'Inde ou autre, puisse véritablement contrecarrer la première puissance monétaire de la planète, à savoir le dollar. Je suis désolé, mais alors même que les Américains n'ont même pas encore commencé à jouer, entre guillemets, avec le dollar. Mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Donald John Trump est un monsieur qui est un faiseur de deals. Il vient de faire passer toute une série de lois aux États-Unis pour légiférer sur les crypto-monnaies. Et c'est un pas de plus vers l'élimination de la Fed. Parce que ce qui tue nos monnaies aujourd'hui, c'est l'inflation. Et l'inflation, je suis désolé, mais elle n'est pas provoquée par l'argent des banques commerciales injectées dans le système. Elle est provoquée par l'argent banque centrale. Et c'est les banques centrales qui augmentent la masse monétaire en fonction du desiderata des politiques pour combler leur gestion calamiteuse des États, les promesses insensées qu'ils font au peuple en continu et qu'ils doivent essayer de tenir pour pouvoir tenir le pouvoir plus longtemps. Donc, ce que je suis juste en train de te dire, c'est que les BRICS, enfin, le dollar n'a pas encore véritablement commencé de jouer la partie contre les BRICS. Les BRICS, le dollar regarde, les Américains regardent ce qui est en train de se passer. Ils se rendent bien compte qu'il y a des alliances et ceci et cela. Mais ils savent aussi une chose, c'est que le jour où ils mettront en place un modèle financier monétaire qui est efficient, ils vont se doter d'une arme économique qui rendra tout leur peuple encore tellement plus productif, qu'ils consommeront encore plus, que les autres ne pourront pas être véritablement en compétition sans copier le modèle en question. Le jour où un pays, et c'est ce que j'écris dans mon livre 2024, tout ce que je vais, comme je te l'ai promis, Vincent, rester près du tronc, rester dans des explications simples. Mais le jour où un pays aura compris que les banques centrales sont anticonstitutionnelles, qu'augmenter et diminuer la masse monétaire en fonction d'intérêts politiques n'est pas possible, et ce pays qui mettra en place un service étatique, qui est la mise à disposition de l'argent pour échanger des connaissances, des biens et des services, sans manipulation politique, sans manipulation du pouvoir, avec des règles très précises, qui n'ont même pas besoin de s'adosser à des technologies de blockchain que façon crypto-monnaie. Non. Il suffit de légiférer sur l'augmentation ou la diminution de la masse monétaire. La masse monétaire doit être calculée dans une stratégie M2 ou M3, donc on calcule la masse monétaire, et la masse monétaire est augmentée ou diminuée une fois par année au 31 janvier quand on connaît la croissance effective du pays. Et la masse monétaire est augmentée en fonction de la croissance du pays. Eh bien, le jour où un État se dotera d'un système comme celui-là, il n'aura même pas besoin d'adosser son système à des technologies de blockchain, non. Parce que l'offre et la demande réguleront la valeur de la monnaie. La valeur d'une monnaie ne tient en aucun cas aux actifs tangibles, au travail des populations d'un pays et aux infrastructures, non. Une monnaie ne tient que par le nombre de personnes qui lui font confiance. Et quand nous aurons une monnaie, quelle qu'elle soit, ça peut être la monnaie suisse, française, ça peut être la monnaie américaine, russe, japonaise, mais une monnaie qui s'adossera à des règles incontournables qui donneront sa stabilité à la monnaie en question, dont la valeur s'ajustera en fonction de l'utilisation et de la confiance des utilisateurs. Eh bien, l'avantage économique sera tel que tous les autres pays, toutes les autres nations devront suivre, sinon elles seront hors match. Elles n'auront plus voix au chapitre, elles devront s'adapter. Et quelque part, Donald John Trump est en train de nous mettre ça en place. Alors, est-ce qu'il ne va jamais l'exprimer comme je le fais? Moi, c'est mon analyse. Mais tous les indicateurs sont au vert. Et s'il fait un truc comme ça, il va nous donner une monnaie que tout le monde voudra utiliser. Parce que si tu es un entrepreneur et puis que tu implantes une société quelque part, tu as deux risques. Les deux plus gros risques, c'est le risque de stabilité légale. Si le cadre légal change tout le temps, tu es mort. Et c'est la valeur de la monnaie dans laquelle tu opères. Et si la valeur de la monnaie peut être influencée par le choix des politiques, eh bien, en tant qu'entrepreneur, tu vas à la faillite. Voilà. J'arrête là. J'espère que je ne suis pas trop compliqué, mais il me semble que c'est assez logique.
Alors, merci pour ces explications. Oui, non, tu es parfaitement clair dans ce que tu exprimes. Moi, personnellement, je m'interroge toujours parce que, je vais jouer un peu les avocats du diable, hein, Pascal. C'est quand même quelque chose qui est assez fou, mais moi, j'ai pas envie de commercer avec le dollar. Je pense que les Français
ou les Suisses, peut-être que les Français ont envie de sortir de l'euro, peut-être, puis de recommercer en francs français, les Suisses en francs suisses, etc. Alors, moi, j'ai l'impression que là, Donald Trump, il est en train, en fait, de favoriser sa petite biscotte à lui.
Ah oui.
Hein, il favorise sa petite biscotte à lui. Alors, effectivement, il ouvre la porte à tout ça. Mais moi, je pense que derrière, s'il suivait les BRICS et l'idéologie qu'elle apporte avec le commerce en monnaie locale, ça pourrait même profiter aux Américains, non ? Parce que ça donnerait une économie un peu plus, on va dire, équilibrée. Hein ? Et puis, on arrêterait, avec les explications que tu as données avant, de parler de dettes infinies, etc. Comment est-ce qu'on pourrait percevoir, nous, pour l'avenir, hein, et surtout pour revenir à une paix, qu'elle soit sociale, qu'elle soit économique, à tout niveau, pour la paix avec un P majuscule, comment on pourrait voir ou entrevoir l'avenir avec une dynamique comme celle-là ?
Ok, Vincent. Tu me parles des BRICS comme une sorte, finalement, de genre d'Eldorado, comme si nos amis chinois avaient des vertus absolument extraordinaires au niveau humanitaire, au niveau du travail, des règlements du travail, etc. Regarde ce qui se passe en Afrique du Sud avec un... Enfin, je ne vais pas entrer dans les problèmes de racisme, d'apartheid, de ceci et de cela. Regarde ce qui se passe en Inde aujourd'hui. Bon, l'Inde va un peu mieux que les autres, c'est juste. Mais soyons quand même clairs. Le pays qui connaît la plus grosse immigration aujourd'hui, et Donald Trump a lutté la contre comme une bête, c'est les États-Unis. C'est même pas l'Europe. C'est pas la Russie. Bon, la Russie, ils ont des principes, des règles qui sont très strictes à ce niveau-là. Mais oui.
La Suisse, comparativement, a subi une pression qui dépasse celle des États-Unis au niveau de l'immigration.
Absolument, absolument. Mais la Suisse a cette vertu extraordinaire d'avoir, je pense, au minimum 40% de sa population qui est d'origine étrangère. Nos amis portugais, espagnols, italiens, qui sont entrés en Suisse à l'époque de la construction des grandes infrastructures, qui s'y sont trouvés bien et qui ont été assimilés dans une culture. On les a pas mis dans des ghettos. On les a assimilés à la culture suisse et souvent les immigrés qui arrivaient en Suisse, eh bien, en deuxième génération, étaient plus suisses que les Suisses eux-mêmes. C'est hallucinant, hein, au niveau de la propreté, au niveau de la façon dont ils balayent devant chez eux, dont ils ne jettent jamais un mégot par terre. C'est tout simplement extraordinaire. Donc ça, ça a été quelque chose de fabuleux. Alors que si j'ose me permettre, en France, on leur a fabriqué bien souvent des cités dortoirs, des trucs en béton affreux qui les regroupaient comme des pestiférés, et il n'y avait aucune intégration. Et ça me tue de dire ça, parce que j'aime tellement la culture française, mon cœur bat au son de la francophonie, c'est une évidence. Mais je suis obligé de le dire, je ne fais que constater des faits. Donc pour en revenir à Donald Trump et la façon dont il gère son truc, oui, il fait ce qui est dans son intérêt, mais c'est comme le proverbe qui te dit, quand tu fais ce qui est bon pour toi-même, tu fais ce qui est bon pour ta communauté, parce que tu es à la base bienveillant. Et la façon dont tu fais une chose est la façon dont tu fais tout ce que tu fais dans ta vie. Donc si tu veux, tu n'es pas blanc dans un domaine, noir dans un autre. Et Donald Trump, oui, il lutte pour sa paroisse, c'est une évidence. Mais ce faisant, il va obliger les autres à amener cette transparence, à amener ce tiers regard, pour que les politiques reprennent, j'allais presque dire, leur fierté du service public. La fierté qu'on a de faire ce qui est dans l'intérêt du plus grand nombre. Et il va forcer ça, parce que quand tu fais ça, encore une fois, tu donnes un avantage compétitif de fou à ton pays, et si les autres n'imitent pas les structures de gouvernance que tu mets en place, ils n'ont tout simplement plus vos chapitres, ils sont hors du match.
Pascal, j'aime bien tes explications, j'aime bien ce que tu dis, mais pour rester terre à terre, oui, et pour que nos auditeurs comprennent, est-ce que tu pourrais leur donner un ou deux exemples concrets, concrets de l'efficacité sur la vie quotidienne des gens que ce changement de paradigme pourrait avoir ?
Attends, il faut que je trouve quelques exemples concrets, comme tu dis.
Tu veux que je te laisse 5 minutes pour réfléchir? Non. Là, je te prends un peu au dépourvu. Hein. Mais voilà, on a dit qu'on essayait de vulgariser au maximum pour nos auditeurs et les gens qui sont ici autour. Et ce qui est bien, c'est de pouvoir donner toujours aux gens un exemple, quelque chose qui peuvent, entre guillemets, toucher. Et ça, c'est important, parce qu'autrement, on est dans l'espace, quoi. Alors, l'espace, c'est bien joli, mais voilà.
Je vais te donner un exemple concret, mais super concret, et qui nous touche tous, un jour ou l'autre, dans notre vie. C'est la santé. Aujourd'hui, on a mis des intermédiaires financiers entre ton médecin et toi. Et que ce soit les firmes pharmaceutiques, la sécurité sociale, les assurances de santé obligatoires comme en Suisse, elles contrôlent les flux financiers qui lient le patient et son médecin. Or, comme on dit en Valais, qui paye commande. Et tu dois te rendre compte d'une chose, c'est que même les médecins honnêtes aujourd'hui qui essayent des protocoles de traitement comme on l'a vu durant le Covid n'ont pas le droit d'en parler, n'ont pas le droit de les appliquer. C'est une hérésie absolue. Et ça te coupe des soins, ça te coupe de l'honnêteté du médecin. Ça te coupe de la capacité d'avoir un médecin qui te donne non seulement le meilleur traitement, mais au prix juste, car il est dirigé par les intérêts financiers des firmes pharmaceutiques, mais qui vont même jusqu'à influencer les universités pour mettre dans la tête des futurs médecins des trucs insensés, à tel point que l'administration Trump, avec Robert Kennedy Jr., vient de faire passer une loi qui impose aux universités en médecine d'apprendre aux médecins d'avoir un thème qui est la nutrition. Et pas juste la nutrition, la totale débile pyramide alimentaire de l'OMS. Non! La nutrition, qu'est-ce que c'est que le jeûne intermittent? Pourquoi tu ne dois manger qu'une fois par jour? Comment fonctionnent tes mitochondries? Comment fonctionne ton système quand tu laisses ton système digestif au repos pendant 20 heures par jour? Comment fonctionne un système, une diète dite carnivore, où tu évites de manger du riz, du pain, des pâtes, des céréales en général, des pommes de terre, donc du sucre? Et ce que je suis en train de te dire, c'est que l'administration Trump, tout d'un coup, avec un Robert Kennedy Jr. qui passe comme ministre de la Santé, est en train d'imposer aux universités ce qu'ils auraient dû faire depuis des âges. La seule chose à propos de laquelle je m'insurge, c'est pourquoi est-ce qu'on enseigne ça uniquement au niveau des universités? Pourquoi est-ce que nos tout jeunes enfants à l'âge de 7, 10, 12 ans n'apprennent pas dès leur premier âge à manger correctement, à éviter de se gaver, comme je dis, de sucre, à comprendre ce que c'est qu'un régime cétogène pour éviter le cancer, hein, le cancer qui naît, je suis désolé, mais qu'une régression mitochondriale vers un stade moins avancé de leur développement au sein de la cellule. Je ne vais pas aller dans des trucs compliqués, désolé. Mais le fait est qu'on a un Robert Kennedy Jr., ministre de la Santé aux États-Unis, qui vient imposer ça. Mais enfin, pourquoi est-ce que nos écoles, nos systèmes éducatifs n'enseignent pas ce qui est véritablement important à nos enfants? Et c'est ça qui ne va pas.
Eh ben, ils le font pas parce que c'est pas rentable.
Voilà.
Eh ben, voilà, pognon. Donc, ça rejoint, en fait, ces explications sont un peu parties par rapport au côté financier, mais pour expliquer aux gens, en fait, qu'on leur raconte des conneries.
Oui.
Parce que, pour Big Pharma, c'est pas rentable.
C'est ça. Voilà. C'est ça. Et tout le moteur est toujours financier. J'en suis désolé. C'est pour ça qu'on doit régler une fois pour toutes le budget de l'État. Et dès qu'on aura réglé le budget de l'État, eh bien, on aura donné une solution à 90% de la problématique et aux dysfonctionnalités qu'on observe dans l'économie actuelle.
Mais c'est quand même à vomir de constater qu'on a un petit groupe de personnes derrière des bureaux, dans des palais dorés, qui se permettent de choisir de manière complètement dégueulasse ce qu'on a le droit de bouffer, ce qu'on n'a pas le droit de manger, et puis en plus qui cautionnent une alimentation complètement pourrie, puisque depuis quelque temps, on constate, notamment grâce aux réseaux sociaux, que la viande n'est plus de la viande, les œufs ne sont plus des œufs, le poulet n'est plus du poulet. Donc même le riz n'est même plus du riz, donc les aliments de base même sont complètement dénaturés chimiquement, au niveau même des moléculaires, et on a en plus de ça une perte de nutriments donc basiques pour le corps humain, qui fait que les gens tombent malades les uns après les autres. Et là, ça rapporte encore du pognon. Pognon, pognon, pognon. C'est complètement dingue. On est tous ici autour, là, il y a pas mal de gens autour de nous. Moi, je sais pas, mais je vois des gens qui sont handicapés, je vois des gens qui sont en pleine santé. Et je me dis, mais ceux qui sont en bonne santé ont de la chance, mais ceux qui sont handicapés, est-ce que c'est pas dû à ces espèces de... Je vais utiliser un mot un peu fort, hein. On m'a dit, il faut pas dire de grossièreté à l'antenne, mais je vais en dire une. Ces espèces de connards qui se permettent de jouer avec notre vie pour une histoire de rentabilité. Bien sûr. Donc en fait, si t'es pas malade, t'es pas rentable. Ouais. C'est hallucinant. Puis vous avez des gens comme alors Donald Trump, tu l'as bien expliqué, qui essayent de rétablir cela. Les BRICS aussi, de leur côté, essayent de rétablir un peu cela. Hein, dans la finalité, je ne veux pas te poser la question de savoir qui va gagner. D'accord. Je pense que le meilleur gagnant qui pourra être dans tout ça, c'est nous.
Oui.
Hein, j'espère que ce sera nous qui allons gagner. Mais est-ce qu'il y aurait une troisième possibilité ou pas?
Alors, quand tu sers une cause, tu gagnes toujours. À partir du moment où tu sers une cause dans un esprit de logique économique, tu gagnes. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que non seulement de ce que tu décris sur l'alimentation est tout à fait exact, mais ça va plus loin encore. Parce qu'en fait, on te trompe sur des choses absolument élémentaires et basiques. On te fait croire que le top prédateur de la planète, à savoir l'être humain, a besoin de manger 3 fois par jour. Et on te fait te concentrer sur le contenu de ton bol alimentaire plutôt que sur la fréquence de tes prises alimentaires. Et la fréquence des prises alimentaires est vraisemblablement plus importante encore que le contenu du bol alimentaire. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous des omnivores. C'est ce qui nous a permis de quitter le rift africain et de conquérir tous les environnements que nous offre la planète. Simplement, on l'a fait en mangeant 3 à 10 fois par semaine, pas 3 fois par jour. Et si ton système digestif est en phase assimilative constamment, eh bien, toutes tes hormones, toutes tes enzymes et autres sont au travail en continu. On fera peut-être une fois une émission sur l'insuline, l'hormone anabolisante la plus puissante du corps. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que pour préserver l'industrie agroalimentaire, on te fait croire que tu dois manger 3 fois par jour. Pour préserver l'industrie pharmaceutique et l'industrie médicale, on te fait croire qu'en mangeant 3 fois par jour, tu te sentiras mieux, alors que c'est ce qui te rend malade en continu.
Je me permets d'interrompre, comme tous les deux, on n'est pas toubib, on n'est pas médecin.
Ben non. Hein,
alors on va juste avertir les gens et leur dire que, en tous les cas pour nos auditeurs et les gens aussi sur place, hein, que ce que tu dis c'est juste des conseils, hein, et que toute maladie ou toute... Ah oui, bien sûr, mais il faut quand même le dire.
Vincent, tu as raison.
On est obligé de le dire parce que après on va avoir des procès en disant oui, mais ils ont causé de ça, mais ils sont pas médecins, c'est de l'exercice illégal de la médecine. Alors messieurs, mesdames, chers auditeurs, auditrices, on est juste là pour vous expliquer les choses. On n'est pas médecin, effectivement, oui. Et on ne vous donne pas de conseils. Si vous êtes malade, je vous en prie, allez voir une personne, votre toubib, votre médecin ou une infirmière, etc. Mais allez voir un professionnel de la santé. Merci. Je te laisse continuer, mais il fallait quand même que ce soit dit.
D'accord. Ben écoute, Vincent, je te remercie. C'est clair que dans un état policier, on est obligé de se prémunir de la façon dont dont les États vont utiliser le bien qu'on cherche à rendre aux populations pour faire encore plus de pognon, pour attaquer les gens qui s'opposent aux bénéfices de l'industrie médicale, de l'industrie pharmaceutique. Je suis tellement désolé de parler de cette façon, parce que j'aime les médecins, on en a tous besoin, ils m'ont sauvé la vie à titre personnel à plusieurs reprises, quand j'étais mal pris. Mais le fait est que les intérêts financiers règnent en maître. Et aujourd'hui, même les médecins, Dr Raoult ou d'autres, quand ils arrivent avec un protocole antiviral super efficace et beaucoup moins cher que ce que proposent les firmes pharmaceutiques pour sauver des patients, par exemple, atteints d'un rhinovirus type COVID-19 ou autre, eh bien, ces gens-là risquent de perdre leur métier, d'être radiés de l'ordre des médecins. C'est inacceptable. Je suis désolé de le dire, mais c'est inacceptable.
Voilà. Alors, c'est vrai que c'est scandaleux hein, de voir des touibs qui sont intègres se faire éjecter de l'ordre des médecins, ne pouvant ne tenir. Je pense au docteur Denis Agré qui ne peut plus soigner les gens. Je pense à d'autres qui sont mis au banc des accusés, comme le docteur Fouché, etc. en France. Oui, parce que Radio Électron Libre est en Suisse, mais on se renseigne quand même sur ce qui se passe en France. Et puis, on est en France aussi pour parler, mais ça c'est grâce à Pascal, de nos amis Savoisiens.
Exactement.
Ah, ouf, je me suis pas trompé.
Savoisienne.
Voilà, savoisien et savoisienne.
Oui.
Voilà. Parce que eux, ils ont depuis quelque temps, ils se battent. J'en ai déjà parlé sur Radio Électron Libre il y a à peu près, je crois, une année ou une année et demie. J'en avais déjà parlé. Et eux, ils se battent pour l'indépendance. Ah, c'est pas facile, hein. Être indépendant, ah ben non, ça demande de la responsabilité, ça demande beaucoup de choses. Et alors, je vais te laisser le soin, Pascal, parce que c'est toi qui as rencontré tous les gens qui font partie de cette équipe qui est très soudée et qui essaye de rendre l'indépendance à la Savoie. De nous présenter le projet et nous présenter les gens qui font que ce projet existe.
Eh bien, nos amis savoisiens, sont des gens ultra courageux. Ils vivent dans un environnement qui est relativement hostile. C'est beaucoup de montagnes, ou peut-être de la moyenne montagne, on va dire. Mais ça les met dans un environnement où on développe des qualités un peu comme celles de nos amis jurassiens en Suisse, voire valaisans dans les montagnes un peu plus élevées. Et ils ont réécrit sur une base juridique très solide une constitution qu'ils vont déposer ou qu'ils ont déjà déposé tout ou en partie à Bruxelles, et ils se réclament d'une totale indépendance de la France tant que la France ne fait pas ce qui est dans l'intérêt du peuple. Et aujourd'hui, soyons clairs, la France est à la dérive en termes de ses systèmes de gouvernance. Je pense que 80% des Français sont furieux contre leur président, etc. Mais donc, nos amis savoyens ont réécrit une constitution. J'en ai une copie dans mon sac derrière moi. Et ils veulent trouver une logique nouvelle pour donner un instrument nouveau, tel que d'ailleurs je l'ai écrit dans 2024, à l'ensemble de leur population. Et c'est pour ça que je tiens à être ici, c'est pour ça que je vais marcher avec eux et qu'on va donner du corps à ce mouvement.
Alors, est-ce que dans le groupe de gens là, qui est vers nous, est-ce qu'il y a un des fondateurs une personne qui a participé à l'écriture de cette constitution et qui voudrait en dire deux mots? Est-ce que personne n'est obligé de parler, hein, j'oblige personne à parler. Je pose la question. Radio Électronique, on est comme ça, on donne la parole à ceux qui veulent, on n'impose rien du tout. Alors, si l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous a envie de s'exprimer, profitez-en. Ça vous donnera une petite voix en plus. Alors, je vous demanderai peut-être de venir vers nous parce que on a un petit micro, puis le câble il est un peu court pour, par rapport à la radio. J'avais des câbles plus longs, mais j'ai pas, voilà, dans le stress, parce que c'était pas prévu que je vienne. Après, c'était prévu que je vienne, puis c'était pas prévu. Une histoire de transport. Donc, si vous arrivez à vous rapprocher de Pascal, on pourra vous tendre le micro pour que vous puissiez vous exprimer. Mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire. On n'oblige rien. On n'oblige absolument rien. Voilà, alors. Oui, non, non, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, moi, ce que je trouve assez extraordinaire dans ce projet-là, c'est de voir que quelques êtres humains, quelques individus, d'accord, arrivent quand même à faire bouger les choses, à faire aller, parce qu'il faut quand même avoir le culot d'aller jusqu'à Bruxelles, de déposer des projets, etc. Il faut quand même avoir le culot de le faire, le courage de le faire, et puis une certaine abnégation. Alors, je vais simplement déjà vous demander comment vous vous appelez. Stéphane. Et puis, alors Stéphane, bienvenue sur les ondes de Radio Électron Libre. Et puis, je te demanderai de compléter, si on peut se tutoyer, je te demanderai de compléter les informations qu'a données avant Pascal concernant votre projet, ton projet, votre projet, pour cette Savoie libre et indépendante.
Alors, bonjour d'abord à tous les auditeurs de la radio. Le projet a été initié par une trentaine de personnes constituées de deux groupes distincts, un en Savoie, l'autre en Haute-Savoie. Le but étant d'écrire une ébauche d'une nouvelle constitution par rapport à nos envies aujourd'hui. La France et la Savoie ne sont pas dans le même état d'esprit il y a aujourd'hui qu'il y a 10 ans, à savoir qu'il y a eu d'autres constitutions qui ont été faites et beaucoup de choses devaient changer en termes de souhaits pour notre futur. Donc je répète bien, c'est une ébauche. Elle doit être complétée non seulement par tous les Savoisiens, donc il y a un site où on peut donner en interaction les idées présentes ou non présentes sur la constitution qui a été écrite, et elle sera à faire évoluer dans le futur. Voilà. L'idée principale était de créer une constitution pour le peuple, par le peuple, avec comme axe principal le référendum d'initiative citoyenne, et qui prendrait sur tous les sujets, à tous les niveaux, que ce soit politique, financier ou autre, et en fait avec une base au niveau communal d'abord, ainsi de faire vivre les choses au plus proche de l'habitant, et d'adjoindre les habitants de la Savoie par des tirages au sort, au choix, à différents niveaux, même au plus haut. Voilà. Pour éviter les abus, tout ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui, qui sont présents en France, aussi bien le copinage que les liens d'intérêt et tout ça, voilà, tout ce qui peut permettre à la corruption. Rien n'est parfait, mais au moins c'est une belle ébauche.
Et alors c'est une explication qui est au moins claire, les choses sont bien dites. Oui, on peut l'applaudir, je voyais madame qui est... Oui, on peut l'applaudir, c'est clair, parce qu'il faut du courage, il faut applaudir, voilà, c'est Stéphane, hein, si, voilà. Moi, j'ai une question pour Stéphane. Vous l'avez déposée à Bruxelles, d'après ce qu'a dit Pascal avant, cette ébauche de constitution. Combien de temps ça prend pour arriver après l'ébauche, à la constitution même, etc. Quel est l'agenda et quelle est la durée à peu près de toutes ces démarches que vous entreprenez?
Alors, les deux groupes ont travaillé quasiment un an et demi de chacun de leur côté, sachant que le premier est parti d'une page blanche à partir du citoyen et de la commune, en s'inspirant des valeurs de du Canada et de la région autonome d'Aoste, de leur constitution. Et l'autre groupe s'est basé sur une constitution existante qui a été rédigée en 2015 en Savoie, et nous sommes partis du haut vers le bas et de la Suisse avec et donc en fait nous avons fait une synthèse avec d'âpres discussions et de négociations qui a minimum 6 mois pour pouvoir synthétiser l'ensemble avec des personnes des deux groupes à raison de 1 à 2 réunions par semaine.
Et vous attendez une réponse pour quand de la part de Bruxelles et de la part de, ben, des autorités, à quelque part quelle est, quelle est la suite des événements maintenant?
Alors, la petite notification, c'est qu'elle n'a pas été déposée à Bruxelles. Elle a été déposée chez le notaire en France. Et en fait, aujourd'hui, on la diffuse au maximum auprès des Savoisiens pour qu'ils puissent s'en imprégner et qu'ils donnent leurs commentaires et qu'ils la fassent vivre. Et la fasse évoluer, soit sur des choses qui manquent, parce que nous sommes issus de la population, donc il n'y a pas de financiers, pas d'avocats dedans, il y a des paysans, des salariés de tout type, et en fait on a tous des façons et des approches différentes, et en fait on a marqué cette constitution par rapport à nos souhaits et notre ressenti.
Voilà, ben merci Stéphane pour ces explications. J'espère que pour les auditeurs qui ont écouté hein, de la région, peut-être qu'ils ne le connaissaient pas, maintenant on connaisse un peu mieux votre projet. Et puis j'espère qu'ils vont le soutenir surtout, parce que c'est important de pouvoir avoir une indépendance, alors qu'aujourd'hui on essaye de tout fusionner, et ce qui fait perdre l'âme à beaucoup de régions, beaucoup de communes, parce que évidemment que quand on fusionne plusieurs communes, il n'y a plus de démocratie directe possible, et on décide pour nous, quoi.
Nous souhaitons ardemment la mettre en avant pour qu'elle soit un fer de lance, une motivation générale pour que la création de la Savoie, et non pas un programme politique ou une personne en particulier. Et en fait, parce que c'est un bien commun que nous pouvons nous répartir et que nous allons cultiver pour notre futur.
Eh bien, c'est fantastique. Merci encore, Stéphane. Je crois qu'on peut les applaudir, non seulement Stéphane, mais toute l'équipe qui a mis cette constitution au point et puis qui maintenant la partage pour justement la faire vivre et corriger les quelques bugs. Excusez-moi, j'utilise ce terme-là parce que je suis dans l'informatique personnellement, donc qui permet de corriger les quelques bugs qu'il pourrait y avoir dans les différents textes et dans les différentes propositions. Moi, j'aimerais que certaines régions, notamment, même en Suisse, hein, alors je dis peut-être pas reprennent leur indépendance, mais que certaines communes secouent le cocotier et reviennent à ce qu'elles étaient avant, c'est-à-dire que c'était les communes qui dirigeaient et non pas cette gulu pour la Suisse, hein, cette gulu dans un bureau à Berne qui sont complètement déconnectées de la réalité du quotidien des gens. Voilà, sur ce, je tenais à remercier donc les 3 brasseurs. Hein, à Annecy, qui nous ont accueillis pour cette émission en direct, un peu spéciale. On a eu quelques soucis de son, d'image, quelques coupures. Je suis désolé. J'espère qu'on va réussir à tout mettre bout à bout, en tous les cas au niveau de la radio, pour que vous ayez le son en intégralité, je pense, demain, le temps que je rentre, que je puisse faire le podcast. Merci à tous les gens qui sont venus sur place. Écoutez, ils sont venus marcher avec Pascal. Et puis, moi, je vous donne personnellement rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode du Grand Vol Invisible. Le titre, c'est les normes ESG et le contrôle moral. Est-ce que c'est pour la planète, comme on nous le dit tout le temps, ou est-ce que c'est pour favoriser les élites? Nous essayerons avec Pascal Borel d'y répondre et bien pour changer, je vais laisser le mot de la fin, pas trop long Pascal parce que le temps file, mais je vais laisser le mot de la fin à Pascal.
Eh bien mon cher Vincent, merci infiniment encore une fois, merci à tous nos amis savoisiens qui sont venus marcher aujourd'hui, qui ont été avec nous toute la journée. C'est fabuleux. On va se retrouver d'ici peu pour des marches constitutionnelles dont le but sera encore une fois de réécrire les constitutions au service des citoyens. C'est ce que nous allons faire partout et c'est ce que j'ai écrit dans mon livre 2024 sur www.4024.com. Allez regarder, premier onglet. Je suis sûr. De plus, si vous allez sur le site internet, tout est gratuit. Je ne vous vends rien, mais vous y trouverez un livre sur l'éducation, un sur les constitutions, un sur le cadre légal, un sur la feuille de route qu'il est nécessaire de mettre en place pour faire littéralement mourir les systèmes actuels, ce qui sera le plus beau cadeau de la nature, puisque seule la mort du système actuel autorisera sa renaissance au service des populations, du seul souverain. Le peuple. Donc, merci Vincent pour cette visibilité que tu nous donnes, encore une fois, par la radio, que tu nous donnes ici à Annecy auprès de nos alliés français. Merci à tous et je me réjouis déjà de parler des ESG la semaine prochaine, tant est que j'ai déjà fait une ou deux vidéos à ce sujet. Et je sens qu'on risque de s'amuser, peut-être de parler de façon un tout petit peu plus légère, tout au moins je l'espère. Dernière chose, désolé pour le retard à tous mes auditeurs. Vous retrouverez tout ça en podcast, en vidéo, sur YouTube, sur X, Telegram, enfin sur tous les canaux qu'on utilise dans le cadre de 4024. Donc merci à toi Vincent et à la semaine prochaine. Merci à vous tous.